que.
T'es sûr?
Ben oui.
Et bon, ben, j'espère que tout fonctionne. Et donc, nous sommes le mardi 19 novembre 2024. C'est notre troisième séance de lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu. Alors, vous avez le plan et vous avez les textes. Bon, donc je vais toujours progressivement, et je crois que ce premier livre, il faut bien le lire. Après, on procédera autrement. Alors, nous avons lu la préface de l'Esprit des lois, très largement déjà le premier chapitre du premier livre, et je compte aujourd'hui achever cette lecture du premier chapitre, et j'aborderai les deux autres chapitres. Alors, il faut vraiment lire le premier livre, comme je vous l'ai dit, parce qu'il pose les bases de l'analyse que Montesquieu va faire des lois humaines. Quand nous aurons terminé sa lecture, nous pourrons aborder sa réflexion politique. Et cette fois, au lieu de pratiquer une lecture suivie, qui serait très longue, bien je procéderai plutôt de manière thématique. C'est-à-dire, par exemple, je me demanderais, avec Montesquieu, qu'est-ce qu'une république, qu'est-ce qu'une monarchie, qu'est-ce que le despotisme. J'aborderai la question de l'esclavage, la question aussi de la justice pénale, qui joue un rôle très important dans la réflexion de Montesquieu, la question du commerce, la question des relations entre la religion et la politique, la question de la relation entre les lois et les mœurs. Bon, enfin oui, il y a plein de choses à faire. Il y a sans doute encore un livre ou deux livres qui méritent d'être lus de façon assez suivie, c'est les livres 11 et 12, en tout cas largement, en partie, parce qu'il y est question d'une réflexion sur les conditions de la liberté politique, donc c'est important. Mais vous voyez, il y a un chantier important. Alors, avant de poursuivre notre lecture, il me paraît nécessaire de faire quelques rappels utiles tout de même. Pourquoi ? La question c'est, pourquoi seuls de tous les êtres, les hommes ont-ils besoin de faire des lois ? C'était ça la question à laquelle on était arrivé. Le chapitre premier, par sa réflexion d'ordre cosmologique, vous a surpris. Vous a décontenancé. C'est vrai que la démarche de Montesquieu considère d'abord le monde en sa totalité, le cosmos, pour s'interroger ensuite, à la fin, sur la place de l'homme et sur le statut des lois qui le gouvernent. C'est comme ça qu'il procède. Sa définition générale, celle qui est tout au début, est très importante et constamment on va y faire référence. Je vous rappelle, les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Eh bien, cette définition, elle nous permet de dire trois choses, si vous voulez, pour l'instant. Et ce sera l'acquis de notre lecture, en quelque sorte. D'abord, première chose, elle permet de montrer que tous les êtres ont des lois, y compris Dieu, souvenez-vous, y compris Dieu, qui est gouverné par la raison primitive. C'est-à-dire, Dieu ne crée pas arbitrairement. Il crée selon une sagesse, une bonté qui constitue sa nature. Il n'en fait pas ce qu'il veut. Hein ? Il ne peut pas décider d'être mauvais. Il est bon par essence. Il est sage par essence. Il est constitué par la raison primitive. Et puis, deuxième acquis, cette définition permet de comprendre que les lois qui gouvernent les êtres sont dérivées de leur nature. Elles dépendent de leur nature. Et elles sont par conséquent différentes selon les types d'êtres. Et troisième chose, ces lois s'expliquent par la nature des êtres dont elles sont dérivées. Et en conséquence, elles ne peuvent pas se réduire à un pur décret de la volonté. Les lois, dit souvent Montesquieu, ne sont pas des actes de puissance. Les lois s'expliquent, au fond, par la nature des êtres auxquels elles se rapportent. En conséquence, les lois établies par les hommes, celles qu'on va étudier, surtout, c'est-à-dire les lois positives, quand je rappelle une fois, encore une fois, que loi positive veut dire loi instituée, hein, loi posée. Eh bien, les lois établies par les hommes, qui seront donc au cœur de l'étude de l'esprit des lois, elles ont une raison d'être. Elles ont une raison d'être, qu'il est possible d'étudier, de dégager. Aussi bizarre que certaines d'entre elles puissent nous paraître. Elles ont une raison d'être. Elles ont une rationalité. Et les décrets arbitraires d'un despote ne sont pas des lois. Vous voyez, il va justement montrer qu'à l'opposé d'une véritable loi, eh bien, l'acte arbitraire d'un despote, justement, n'est pas une loi. Il n'y a aucune régularité. Alors, l'examen des différents types d'êtres et des lois qui les gouvernent nous conduit, en fin de chapitre, à l'étude de l'homme. Et c'est de cela dont je vais partir. On voit que, on a vu en tout cas, que parmi les différents êtres, l'homme est celui qui est le moins soumis à ses propres lois. Il est l'être en lequel on rencontre le maximum d'inconstance. Alors, si je reprends l'examen de l'homme, l'homme, il est à la fois un être physique, un être intelligent, et une créature sensible. Donc, il est soumis à trois sortes de lois. Comme être physique, il fait partie du monde physique, comme le dit Montesquieu, dont les lois sont des règles invariables. C'est-à-dire, l'homme, en tant que corps physique, obéit parfaitement aux lois de la matière. En revanche, comme être intelligent, Il ne suit pas toujours les lois qui gouvernent les êtres intelligents. Et vous vous souvenez, on a vu ça la dernière fois, les lois qui gouvernent les êtres intelligents, ce sont ces fameuses lois que Montesquieu appelle lois primitives. Ce sont ces lois que les êtres intelligents découvrent dans leur intelligence. Et ces lois sont des vérités morales éternelles. Ce sont les fameux rapports d'équité, souvenez-vous, les fameux rapports d'équité qui indiquent ce qui est juste et ce qui est injuste. Et ces rapports d'équité, d'où viennent-ils ? Ils viennent de Dieu, Dieu, mais Dieu en tant qu'il est gouverné par la raison primitive. C'est-à-dire que ces rapports d'équité viennent de la raison primitive. Donc, vous voyez, ça c'est très important à rappeler, parce que il y a donc, chez les êtres intelligents, et l'homme est un être intelligent, une inconstance. Ils ne suivent pas toujours les lois qui gouvernent leur intelligence, les fameux rapports d'équité. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, parce que leur être intelligent est borné par sa nature, et ce qu'explique Montesquieu. Donc, ils sont sujets à l'erreur. Comme leur intelligence est bornée, ils sont sujets à l'erreur. Ils peuvent se tromper sur ce qui est juste. Et d'autre part, comme l'explique aussi Montesquieu, parce que ils agissent par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un libre arbitre qui se manifeste comme un pouvoir d'infraction, comme un pouvoir de désobéir, au fond, aux lois qui gouvernent l'intelligence. Donc les hommes, en effet, peuvent choisir de ne pas suivre les lois qu'ils découvrent dans leur intelligence. Ils peuvent choisir de ne pas faire ce qu'ils savent juste. Ils peuvent choisir, vous voyez, d'aller à l'encontre des lois morales qui sont dans leur intelligence. Et enfin, troisième chose, les hommes sont des créatures sensibles. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité comme les bêtes. Et à ce titre, ils sont gouvernés, comme l'explique Montesquieu, par des lois naturelles. Des lois naturelles, des lois par lesquelles ils veillent à leur conservation. Et le chapitre 2 va revenir là-dessus. Et les lois naturelles, ce sont les lois constitutives, au fond, de notre être en tant que créature sensible. C'est-à-dire que, comme tout animal, l'homme veille à sa conservation. Il est soumis aux lois naturelles au sens où il veille à sa conservation. Mais alors ici, c'est là que je vais en venir au texte que vous aurez sous les yeux. Contrairement aux bêtes, à la conservation desquelles ces lois suffisent, les hommes ont besoin de faire des lois. Ils ont besoin de faire des lois pour assurer leur conservation en société. C'est ce que nous allons comprendre. Ils ont besoin de lois positives. Vous voyez, les lois, les fameuses lois positives, qui sont donc instituées par des législateurs. Ainsi, contrairement aux bêtes qui sont, comme le dit Montesquieu, on l'a vu déjà, qui sont unies par le sentiment, c'est-à-dire spontanément, eh bien les hommes, c'est ce qu'il explique, sont unis par la connaissance. Et la connaissance, elle suppose l'exercice, bien sûr, de l'intelligence. Et elle suppose aussi une entente commune entre les hommes. Les hommes peuvent s'entendre sur des lois communes. Vous voyez que, en ce sens, la sensibilité, et c'est ça qu'il va falloir comprendre, la sensibilité des hommes est différente de celle des bêtes, par l'influence qu'exerce sur elles leur intelligence. Et ce point est très important. Se distinguant de la bête par l'intelligence, l'homme, d'abord, a un rapport à Dieu. L'homme a un rapport à Dieu, c'est-à-dire que les lois qu'il découvre en son intelligence, les lois de justice qu'il découvre dans son intelligence, lui viennent de Dieu. L'idée de justice, pour le dire tout simplement, vient de Dieu. Et elle est constitutive de la sagesse divine. C'est par l'idée de justice que nous concevons Dieu. C'est ce que, d'ailleurs, une lettre des lettres persanes montre très bien. Et alors, ici, nous allons lire le texte. Ligne 3, 4, premier texte. Hein. Parce que là, j'ai pris la fin du premier chapitre. Quoi qu'il en soit, elles, c'est-à-dire les bêtes, n'ont point avec Dieu de rapport plus intime que le reste du monde matériel. Et plus loin, si vous allez ligne 16, ça va dans le même sens, les bêtes n'ont point les suprêmes avantages que nous avons. Suprêmes avantages, c'est effectivement ce rapport à Dieu, ce rapport à la transcendance. Mais, aussitôt après, vous noterez, toujours ligne 16, qu'elles en ont, elles ont des avantages que nous n'avons pas. C'est-à-dire que, certes, l'intelligence nous met en rapport avec Dieu, mais en nous élevant vers la transcendance, elle produit des passions qui sont absentes chez la bête et qui rendent la vie humaine beaucoup plus difficile, en l'exposant au malheur. Lisons le texte, ligne 17. Donc les bêtes n'ont point les suprêmes avantages que nous avons, elles en ont que nous n'avons pas. Elles n'ont point nos espérances, mais elles n'ont pas nos craintes. Elles subissent comme nous la mort, mais c'est sans la connaître. La plupart même se conservent mieux que nous et ne font pas un aussi mauvais usage de leur passion. C'est-à-dire que les bêtes n'ont pas de rapport au futur. Elles vivent en présent. Elles n'ont certes aucune espérance, l'espérance éventuellement dans une vie future, mais elles ne sont pas, comme nous, exposées à la crainte. La crainte, c'est l'envers de l'espérance. Ça se rapporte toujours au futur. Elles ne sont pas, comme nous, exposées à la crainte, crainte de Dieu, si on est croyant, bien sûr, crainte de la mort. Crainte de la mort. Donc les bêtes vivent au présent, elles se contentent de vivre, ou si vous voulez, futur proche, mais il n'y a pas de... Elles connaissent, comme dit Montesquieu, elles subissent la mort, mais elles ne la connaissent pas. Connaître, ça ne veut pas dire que nous la connaissons, ça veut dire que nous en avons une idée. Hein, nous sommes conscients d'être mortels. Les bêtes, je dirais, vivent. Elles adhèrent à ce qu'elles vivent. Et elles parviennent ainsi à mieux régler que les hommes leurs propres passions. Donc si je résume, vous voyez, les bêtes, finalement, sont moins exposées au malheur. Si je résume, l'homme cumule donc une intelligence bornée, il est sujet à l'erreur, des passions exacerbées et une certaine aptitude au malheur. Et par là, il est donc cet être qui, par son intelligence et sa sensibilité, se caractérise parmi tous les êtres du cosmos par une capacité maximale d'infraction, par une inconstance maximale, par une capacité maximale d'infraction qui est inconnue dans le cosmos. Il n'y a que bien que l'homme qui soit ainsi. Alors, d'où la conséquence qui est développée par Montesquieu dans le dernier paragraphe. Dernier paragraphe, très important, qu'il va falloir lire avec attention. Alors, lisons-le. L'homme, comme être physique, est ainsi que les autres corps gouverné par des lois invariables. Ça, c'est clair. Comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies et change celle qu'il établit lui-même. Il faut qu'il se conduise, et cependant, il est un être borné. Il est sujet à l'ignorance et à l'erreur, comme toutes les intelligences finies. Les faibles connaissances qu'il a, il les perd encore. Comme créature sensible, il devient sujet à 1000 passions. Un tel être pouvait à tous les instants oublier son créateur. Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la religion. Un tel être pouvait à tous les instants s'oublier lui-même. Les philosophes l'ont averti par les lois de la morale. Fait pour vivre dans la société, il y pouvait oublier les autres. Les législateurs l'ont rendu à ses devoirs par les lois politiques et civiles. Alors voilà le problème à résoudre. Comme le dit Montesquieu, je reprends sa formule, il faut que l'homme se conduise, il faut qu'il se conduise. Et cependant, il est le moins apte à suivre ses propres lois. Voilà le problème. C'est-à-dire que les règles de justice qui sont en son intelligence, lui viennent de Dieu, hein ? Bon, eh bien, ces règles-là, évidemment, il ne les suit pas toujours, on l'a suffisamment dit. En conséquence, pour que l'homme, en tant qu'être intelligent, suive ses lois, comme en tant qu'être physique, il est parfaitement apte à suivre les lois des corps physiques, eh bien, il faut qu'il y soit rappelé. Vous voyez le verbe utilisé par Montesquieu, il faut qu'il y soit rappelé. Sa nature ignorante et passionnée est telle, en effet, qu'elle le conduit à oublier ses devoirs. Et vous avez le verbe oublier, le terme d'oubli, qui revient trois fois. Trois fois dans le texte. Il y a d'abord l'oubli du Créateur, c'est-à-dire quand ne suivant pas les lois de son intelligence, Il oublie son créateur, premier oubli. Deuxième oubli, il s'oublie lui-même en tant qu'homme. Et troisième oubli, il oublie les autres. Alors qu'il est fait pour vivre en société, il oublie les autres. Et ça va bien sûr avoir des conséquences. Donc, il va falloir y remédier. Donc, il y a trois oublis, eh bien, il faudra trois remèdes. Le premier, la religion. Il ne développe pas. Il en dit un minimum. Mais c'est Dieu, d'ailleurs, qui s'en charge. Par la religion. En le rappelant à lui, par les lois de la religion. Je lis. Alors, pour le signaler, les ordres ecclésiastiques de son époque étaient extrêmement furieux de lire ce qu'ils ont lu, là, sous la plume de Montesquieu. Ils ont vu en Montesquieu un adepte de ce qu'on appelle la religion naturelle. La religion naturelle, c'est cette religion où l'homme a directement accès à Dieu sans passer par l'intermédiaire d'une église. Vous voyez ? C'est ça, la religion naturelle. C'est une religion, finalement, intérieure, hein, où l'homme est en rapport avec Dieu sans, par la raison, par le sentiment, mais sans passer par, par une église instituée. Alors là, évidemment, il semblait à ceux qui ont lu ici le texte de Montesquieu qu'il était en train de nous raconter qu'on pouvait se passer d'une église, hein, puisque Dieu se chargeait finalement de nous rappeler à nos devoirs par les lois de la religion. Donc, l'interprétation en tout cas qu'ils en ont faite. Mais bon, l'esprit des lois ne va pas parler de ça. Il ne va pas parler de ce premier remède. Hein. Le deuxième, il a été un peu évoqué déjà dans la préface, remède moral. Et ce sont là les philosophes qui s'en chargent en aidant l'homme à connaître sa propre nature. C'est ce que dit Montesquieu dans la préface. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, les hommes, les philosophes, peuvent contribuer à faire connaître ici à l'homme sa propre nature. Donc, effectivement, la philosophie peut jouer un rôle à ce niveau. Mais c'est surtout celui, c'est surtout le troisième remède qui nous intéresse, celui qui va être au cœur de l'esprit des lois, remède juridique et politique. Et là, ce sont les législateurs qui vont s'en charger, en élaborant des lois politiques et civiles, et regardez bien, relisons juste la fin. Fait pour vivre dans la société, il y pouvait oublier les autres. Les législateurs l'ont rendu à ses devoirs par les lois politiques et civiles. Alors, suivez bien là, pour l'instant, pas de problème. Donc, si l'on s'en tient ici à la lettre du texte, le remède des législateurs consisterait à remettre l'homme sur le droit chemin, en quelque sorte. Il consisterait à lui permettre de retrouver les devoirs oubliés. Ces devoirs oubliés que lui dictent les rapports d'équité qui sont dans son intelligence. Mais ici, il y a un problème d'interprétation. Montesquieu répète plusieurs fois le terme d'oubli. Mais en quel sens faut-il entendre cet oubli ? Alors, on peut l'entendre, comme apparemment c'est le cas ici, si on suit la lettre du texte, on peut l'entendre d'abord comme un état à surmonter. Un oubli, c'est quelque chose de passager. Il faut faire un effort de mémoire pour retrouver en fait ce qu'on a oublié. On peut l'entendre de cette manière, comme un état à surmonter, un état provisoire à surmonter. Et en ce sens, si on l'entend ainsi, les lois politiques et civiles seraient le moyen de rétablir et de rappeler à chacun les rapports d'équité qu'il a oubliés. Seulement, c'est peut-être pas le bon sens, en fait, que va retenir Montesquieu. Et on verra par la suite que ce n'est pas ce sens-là, pas en ce premier sens qu'il faut vraiment l'entendre. Il y a un deuxième sens du terme d'oubli. Oubli, ça peut signifier aussi effacement. C'est-à-dire ici, il y a comme une usure, un effacement qui fait que, les rapports d'équité sont bien toujours présents, à la conscience des hommes, mais d'une manière qui n'est pas parfaitement claire. Hein. Ils ne parviennent pas à en avoir une connaissance suffisante, voyez. Ils sont comme effacés. Ils sont présents, mais ils ne s'imposent plus comme un modèle de justice évident. Et en ce sens, si on l'entend comme ça, les législateurs ne pourraient plus simplement en appeler à eux pour faire des lois, mais ils seraient désormais contraints d'inventer des lois nouvelles pour suppléer à leur effacement. C'est-à-dire qu'ici, l'intervention des législateurs ne consisterait pas, au fond, à surmonter l'oubli passager, en quelque sorte, hein, à retrouver dans leur pureté les lois morales éternelles qui sont dans l'intelligence humaine. Non. Ici, l'intervention des législateurs consisterait à suppléer une sorte d'effacement des rapports d'équité qui sont dans l'intelligence humaine. Vous voyez, encore une fois, je ne veux pas dire ici que ces rapports d'équité ont disparu de l'intelligence, mais ils sont toujours présents, d'ailleurs, dans l'activité législatrice des législateurs. Ils leur permettent de s'orienter, mais ils ne peuvent plus, sans doute, apparaître comme un modèle parfaitement connaissable, qu'il suffirait d'appliquer. Vous voyez ? Parce que si, effectivement, on pouvait parfaitement connaître ces rapports d'équité, s'ils n'étaient pas effacés, effectivement, il suffirait pour le législateur, au fond, de les appliquer. Et oui, et d'une certaine façon, son activité serait réduite. Disons, il s'inspirerait de ces lois. Si, à la limite, il aurait un petit boulot d'ajustement à la situation aux situations. Voilà. Donc là, c'est plutôt dans ce second sens que nous allons comprendre que Montesquieu va l'entendre, le terme d'oubli. Il y a une condition oublieuse des hommes, si vous voulez. Voilà ce qu'il va montrer. Et les législateurs, effectivement, seraient ainsi condamnés à inventer des lois pour s'adapter à des situations qui soient à chaque fois singulières, étant donné la disposition particulière de chaque peuple pour lequel elles sont établies. Vous voyez ? C'est ce que va montrer le troisième chapitre. Bon, donc, voilà ce qu'on peut dire, hein, pour l'instant, de ce que Montesquieu entend par oubli. Et c'est peut-être ce qui explique qu'après le premier chapitre, le texte de Montesquieu change d'horizon. Parce que dans le premier chapitre, vous avez bien vu, la réflexion inscrit les lois positives dans un cadre cosmologique. C'est-à-dire qu'elle rapporte l'existence des lois faites par les hommes à la raison primitive qui ordonne l'univers. Hein, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Mais l'inconstance des hommes, leur condition oublieuse, oblige à changer d'horizon. Et désormais, vous allez voir qu'on ne va plus mettre en avant la raison primitive, mais on va mettre en avant la raison humaine. C'est la raison humaine, maintenant, qui va en quelque sorte être au devant. Et la raison humaine, eh bien, on va montrer, c'est ce que va faire l'esprit des lois, Montesquieu va montrer comment elle opère en établissant des lois positives. Et comment elle opère en s'adaptant à chaque fois à des situations qui sont particulières. Bon, au terme de ce premier chapitre, donc, très important tout de même, hein, franchement, il est très important ce premier chapitre. Donc, vous aurez compris que l'établissement des lois politiques et civiles, donc les lois positives, établissement fait par les législateurs, eh bien, cet établissement est nécessaire désormais pour aider les hommes à brider leur redoutable pouvoir d'infraction, leur liberté, hein, qui est un pouvoir d'infraction, en réglant leur vie commune par des lois. Et voilà ce que la conclusion qu'il faut tirer, au fond, de la lecture de ce premier chapitre. Alors, ayant montré, donc, à la fin du premier chapitre, que les hommes ont besoin d'établir des lois pour préserver leur vie commune en société, alors on pourrait s'attendre à ce que Montesquieu passe directement à l'examen de ces lois. Or, vous allez voir, cet examen n'est abordé qu'au chapitre 3. Chapitre 3 a pour titre « Les lois positives ». Et entre le premier chapitre et le troisième, vous en avez un, le chapitre 2, qui traite des lois de la nature, des lois naturelles. Un peu étrange tout de même. Alors, pour quelle raison? Et là, il faut s'interroger là-dessus, vous voyez. Une lecture rapide du chapitre 2 pourrait laisser penser que Montesquieu va s'engager sur la voie tracée déjà par ses prédécesseurs. Et de qui suis-je en train de parler? Eh bien, de ces philosophes, je vais vous les présenter, de ces philosophes du droit naturel moderne qui, sont les philosophes contemporains de Montesquieu, 17e, 18e siècle. Et parmi eux, je vous les cite, vous avez quelques noms illustres. Alors, il y en a un qui est un peu particulier, c'est Thomas Hobbes, qui a écrit deux grands livres, Du citoyen et le Léviathan. Le Léviathan est écrit en 1651. Or, c'est un philosophe politique majeur. Et c'est contre lui surtout que Montesquieu écrit. Hein, mais pas seulement. Et puis, vous avez, à la suite de Hobbes, Spinoza, sur le plan politique, d'une certaine façon, et dans la lignée de Hobbes, même s'il n'en partage pas les conclusions, qui publie deux traités politiques. Un premier, en 1670, le fameux traité théologico-politique. Et puis un deuxième qu'il ne pourra pas achever parce qu'il mourra. Il mourra en 1677, donc c'est le traité politique. Et puis, je vous cite un autre grand nom, qui lui aussi est très important. C'est John Locke. John Locke qui écrit, qui publie en 1690, donc plus tard, le traité du gouvernement civil. Traité du gouvernement civil. Locke, c'est, si vous voulez, c'est le penseur du libéralisme. Par excellence. Enfin, il y a deux figures du libéralisme. Il y a celle de Hobbes aussi. Oui, qui sont opposées d'ailleurs. Mais c'est aussi un philosophe libéral en un sens. Enfin, bon, n'entrons pas là-dedans. Alors, aujourd'hui, on retient ces grands noms-là que je vous ai cités, mais il faudrait encore citer d'autres noms de philosophes qui étaient tout aussi connus que ceux que je vous ai cités et qui sont encore, d'une certaine façon, des références. Alors, il y a Grotius, un philosophe hollandais, et il est important parce qu'il est toujours cité, toujours une référence en matière de droit international. C'est le premier penseur du droit international, c'est un des premiers grands penseurs du droit international, de ce qu'on appelait le droit des gens. Le droit des gens, c'est le droit des peuples. Et il écrit, il publie en 1625, du droit de la guerre et de la paix. Du droit de la guerre et de la paix. C'est lui qui pense la guerre juste, les conditions de la guerre juste, enfin, toutes ces règles internationales qui font que pendant une guerre, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il y a des conventions, etc. Vous voyez, c'est un des premiers à penser comme ça. Et puis un autre, alors lui, encore moins connu, Pufendorf, philosophe allemand, Pufendorf, qui publie en 1672 un ouvrage qui s'appelle Du droit de la nature et des gens. Du droit de la nature et des gens, encore une fois, les gens, c'est les peuples. Hein ? Bon, et Pufendorf est lu avec beaucoup d'attention par Montesquieu. Et puis, il y en a d'autres encore. Hein. Mais, on ne va pas tous les citer. Mais là, ce sont deux noms encore importants. Alors, je vous ai dit, je vous les ai présentés comme des philosophes du droit naturel moderne. Alors, c'est une expression un peu générique. Ça ne signifie pas, quand on les regroupe sous ce terme-là, qu'ils sont tous d'accord entre eux, pas du tout. D'ailleurs, on aura l'occasion de montrer qu'il y a une opposition très claire entre Hobbes et Locke. Entre Hobbes d'un côté, Locke, Pufendorf, Grotius de l'autre. Hobbes est à part. Mais bon, on le range un peu dans la catégorie des philosophes du droit naturel, pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Alors, donc, ils sont pas en accord, si vous voulez, ils ont des divergences. Mais pourquoi les regroupe-t-on cependant? Parce qu'ils ont la même démarche, ils ont une démarche commune. Et en quoi consiste cette démarche? Elle consiste à expliquer la genèse de l'état civil. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'état civil? C'est l'existence de sociétés organisées juridiquement. C'est ça, l'état civil. Hein, l'existence de sociétés organisées juridiquement et politiquement. Donc, leur démarche consiste à expliquer donc la genèse de l'état civil à partir de l'hypothèse d'un état antérieur qu'ils appellent l'état de nature. En soi, fera la même chose. Mais bon, là aussi, il y aurait des tas de choses à dire. Et d'ailleurs, Rousseau, sans Montesquieu, n'existerait pas. Hein. Vous allez voir, la démarche est très très proche. L'état de nature, c'est une fiction. Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'état de nature? C'est une fiction. Ne cherchez pas une confirmation dans la réalité, c'est surtout une fiction philosophique, si vous voulez, par laquelle on envisage ce que serait la vie des hommes avant l'institution des sociétés réglées par des lois et placées sous l'autorité d'un pouvoir d'État. Donc, vous voyez, les sociétés qui existent, elles ont des lois, elles ont un État, etc., un pouvoir. Bon, eh bien, on imagine ce que serait la vie des hommes avant que tout cela soit établi. Et c'est ça qu'on appelle l'état de nature. C'est une expérience de pensée, si vous voulez. Vous voyez ? C'est une hypothèse. Alors, pour ces philosophes, la plupart arrive à la conclusion que cet état de nature est un état insupportable. Il ne permettrait pas aux hommes d'assurer leur sécurité. Et donc la fonction de cette fiction, bien, c'est de montrer qu'il est nécessaire d'en sortir. Et le moyen d'en sortir, eh bien, c'est celui d'un pacte social, d'un contrat social, c'est-à-dire d'un accord par lequel les hommes décident de s'en remettre à une autorité politique, instituée justement par ce pacte, et chargée d'établir les lois et de les faire respecter. C'est-à-dire cette autorité politique, elle est instituée par ce pacte social, par cet accord commun. Et donc, l'autorité politique, elle va représenter au fond tous les hommes, hein, elle va agir en leur nom, elle va établir des lois, et elle va être chargée aussi de les faire respecter. Et c'est ainsi qu'on aura une société organisée. Vous voyez comment ils procèdent, vous voyez comment ils pensent, hein, la naissance de l'état civil. Alors, vous voyez que le problème posé par les philosophes du droit naturel moderne, aussi divers soit-il, eh bien, c'est un double problème. Premier problème, qu'est-ce qui rend nécessaire l'institution d'autorité politique et l'établissement des lois politiques et civiles? Qu'est-ce qui rend nécessaire, voyez, l'organisation politique et juridique de la société? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi on ne peut pas s'en passer? Première question. Deuxième question, à quelles conditions cette autorité est-elle légitime? À quelles conditions les lois qu'elle établit sont justes? Vous voyez? Parce que il ne suffit pas qu'il y ait un pouvoir. Il faut qu'il y ait consentement à ce pouvoir. Et pour qu'il y ait consentement à ce pouvoir, il faut que ce consentement puisse effectivement s'appuyer sur des raisons valables. Et donc, question de la légitimité de l'autorité politique. Alors, ces deux questions que j'ai énoncées, elles reçoivent des réponses divergentes selon les uns ou les autres. Et ces philosophes ont des définitions divergentes de l'état de nature. Et on s'aperçoit très vite que la définition que les uns et les autres ont de l'état de nature dépend largement de la conception qu'ils se font de l'autorité politique. Je vais prendre deux philosophes. Je vais présenter schématiquement la divergence qui oppose Thomas Hobbes, j'en ai parlé, et John Locke. Vous voyez ? Je vais vraiment de façon très schématique vous présenter leur divergence. Je ne m'éloigne pas du texte de Montesquieu, hein, parce que vous allez voir, tout ça va nous être utile. Pour Thomas Hobbes, donc deux livres, hein, Du citoyen et Le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre biblique, hein, censé représenter l'État. Pour Hobbes, l'état de nature, ou situation de nature, hein, État, c'est avec un petit E, hein. Ne confondez pas avec l'État avec un E majuscule. Donc l'état de nature, pour Hobbes, c'est un état de guerre, de tous contre tous. Alors pourquoi ? Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'un état sans règles, sans limites, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de normes. Chaque homme a le droit de faire tout ce qu'il peut pour réaliser ses désirs. À l'état de nature, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de loi. Tout est possible. Étant donné que, par ailleurs, les hommes sont pratiquement égaux en force. Je m'explique. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des inégalités de force, mais le plus faible est toujours assez fort pour menacer la vie du plus fort. Par surprise. Ou en se coalisant avec un autre. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'aucun homme n'est suffisamment fort pour compter sur sa seule force et se protéger de la menace des autres. Vous voyez ? C'est-à-dire que tous les hommes sont dans le même bain, exposés, vous voyez, à la menace d'autrui. Et quand bien même il y aurait des inégalités de force, elles sont insignifiantes, étant donné la situation. En conséquence, les hommes se trouvent tous en position de rivalité, de concurrence, et chacun peut constituer une menace pour les autres. L'état de nature s'avère ainsi un état d'insécurité maximale, où chacun peut craindre de mourir du fait d'autrui. Nous sommes tous également exposés à la crainte de la mort du fait d'autrui. Rien ne nous protège. Insécurité maximale. Donc c'est un état d'insociabilité. Et c'est là qu'intervient ce que Hobbes appelle la loi naturelle. La loi naturelle, loi de nature. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi ? Cette loi, c'est celle de notre raison. Tous les hommes sont capables de raisonner. Donc cette loi, c'est une loi de la raison qui commande à chacun de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer sa conservation, pour assurer la conservation de sa vie et sa sécurité. Or, la crainte de la mort étant mutuelle, tous étant exposés à cette crainte, eh bien, les hommes ont tous également intérêt à sortir de l'état de nature. Et ce qui les y incitera, c'est la loi de nature. La loi de nature nous recommande de sortir de l'état de nature. La loi de nature, vous voyez, c'est un impératif rationnel, donc qui commande aux hommes de sortir de l'état de nature, et le moyen d'en sortir, c'est de conclure un pacte d'association un pacte d'association mutuelle avec les autres, ce qu'on va appeler un contrat social, par lequel chacun s'engage réciproquement avec les autres à renoncer au droit qu'il a de se gouverner lui-même. Dans l'état de nature, je suis mon propre maître. Hein, le seul droit qui existe, c'est celui de me gouverner moi-même. Eh bien, par le pacte social, chacun renonce au droit de se gouverner lui-même pour confier, d'un commun accord avec les autres, pour confier ce droit à une autorité commune qui se trouve ainsi instituée comme autorité légitime et dispose à partir de là d'un pouvoir absolu qui sera seul à même d'assurer la sécurité des citoyens en instaurant la paix civile. Et comment le pouvoir souverain, comment l'autorité politique va-t-elle assurer la paix civile? Eh bien, en établissant des lois et en faisant respecter ces lois par la force, au besoin, contre ceux qui désobéissent. Et pour, vous voyez, pour Hobbes, l'état de nature, c'est un état de guerre de tous contre tous. Eh bien, la seule solution qui permet d'en sortir, eh bien, c'est d'établir un pouvoir absolu. Un pouvoir absolu qui sera le seul à pouvoir garantir la paix civile. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes craignent tous le pouvoir. Hein, il faut que la crainte soit en quelque sorte concentrée sur le pouvoir pour que, effectivement, la paix civile soit établie. Et donc, effectivement, Hobbes défend une thèse absolutiste. Vous voyez ? Une thèse absolutiste. C'est-à-dire que le pouvoir est absolu. Je dirais que, ici, le souverain, l'État, est le seul à définir ce qui est juste. On l'avait déjà vu, ça. Il n'y a pas de justice au-dessus du souverain, pour Hobbes. Hein, c'est lui qui définit ce qui est juste et ce qui est injuste. Vous voyez, c'est ça, la philosophie de Hobbes. Alors, John Locke, traité du gouvernement civil. Eh bien, lui prend soin de distinguer l'état de nature de l'état de guerre. Pour lui, il y a une différence. L'état de nature n'est pas un état de guerre. L'état de nature, c'est un état où les hommes jouissent également des mêmes droits naturels. Et quels sont ces droits naturels? C'est la vie, la liberté, la propriété. Et donc, les hommes à l'état de nature ne sont soumis à aucun supérieur. Et ils disposent, oui, d'une parfaite liberté d'agir, mais attention, dans les limites de ce que Locke appelle la loi naturelle. Mais alors, à ce moment-là, il n'entend pas du tout de la même manière que Hobbes. La loi naturelle, pour Locke, ce n'est pas cet impératif qui dicte à chacun de calculer les moyens de sa conservation, c'est pas ça. Pour Locke, et pour ceux qui sont dans sa lignée, pour Locke, la loi naturelle, c'est une loi morale. Au fond, c'est une loi morale qui m'interdit de faire du tort à autrui, qui exige de moi que je respecte les droits naturels des autres, et réciproquement, bien sûr. Donc, pour Locke, l'état de nature, c'est un état soumis à la législation de la raison, et la raison est essentiellement de nature morale, vous voyez ? Elle prescrit. Elle prescrit une conduite juste. Et vivre dans l'état de nature, eh bien, c'est vivre avec les autres hommes sous la raison, sans supérieur. Et dans l'état de nature, chacun est juge du respect de la loi naturelle. Chacun est juge du respect de la loi naturelle, et quand il y a un litige, eh bien, c'est chacun qui juge de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Seulement, l'état de nature s'avère un état précaire. C'est un état précaire parce que c'est un état qui tombe très vite dans l'état de guerre dès lors que la violence apparaît. Il suffit qu'il y en ait un qui soit violent pour que l'état de nature n'ait plus aucun sens. On tombe dans l'état de guerre. Et à ce moment-là, il est nécessaire de s'en remettre à une autorité supérieure qui va juger, qui va trancher les différends et éviter ainsi que les hommes ne s'entretuent. D'où l'établissement, par consentement mutuel, par un contrat social, d'une autorité politique commune. Seulement, contrairement à Hobbes, pour qui, effectivement, la seule solution, c'est celle d'un pouvoir absolu, Locke conçoit un gouvernement limité, dont la seule raison d'être est la préservation des droits naturels des individus, la vie, la liberté, la propriété, dans le respect de la loi naturelle. Conception libérale. Ce qu'on a appelé le libéralisme, d'abord, c'était ce qui s'opposait à l'absolutisme, vous voyez, sur le plan politique. Donc il faut. C'est-à-dire que le mot libéralisme est un mot très ambigu. Parce qu'aujourd'hui, on entend autre chose. C'est le libéralisme économique. Alors, d'une certaine façon, il y a deux visages du libéralisme. D'une certaine manière, Hobbes aussi est libéral. Il est pour que l'individu puisse faire ce qu'il veut, enfin, d'une certaine manière. Mais il a une conception autoritaire du libéralisme, qui peut aussi triompher. Alors, donc, vous voyez, ce détour n'est pas inutile pour comprendre ce que Montesquieu va faire dans le chapitre 2. Vous allez voir. Et on va voir que, loin d'être une simple reprise de la démarche commune aux philosophes du droit naturel, Montesquieu se livre au contraire à une critique qui vise à écarter leurs conclusions et l'usage qu'ils font de la notion de loi naturelle. Et celui qui est le plus visé, d'ailleurs son nom est cité deux fois, c'est Hobbes. C'est Hobbes. Il est cité deux fois dans le chapitre. Alors, on va bien regarder ce que dit ici Montesquieu. Et je trouve que c'est vraiment un chapitre intéressant. Apparemment, Montesquieu, si vous lisez au début, c'est normal que vous le lisiez comme ça au départ. Apparemment, Montesquieu reprend la même démarche que ses prédécesseurs. Si vous regardez le premier paragraphe, lisons-le ensemble, chapitre 2. Avant toutes ces lois, alors ces lois c'est quoi? C'est les lois politiques et civiles dont il a été question à la fin du premier chapitre. Avant toutes ces lois sont celles de la nature, ainsi nommées parce qu'elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. Pour les connaître bien, il faut considérer un homme avant l'établissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu'il recevrait dans un état pareil. Arrêtons là la lecture. Donc, ici, apparemment, il reprend la même démarche. L'hypothèse de l'état de nature consiste à nous faire reculer en pensée avant l'établissement des sociétés. C'est comme ça qu'il procède. Alors, est-ce que Montesquieu a vraiment l'intention, lui aussi, d'expliquer la genèse des lois politiques et civiles en partant de l'hypothèse de l'état de nature, ce serait tout de même bien curieux. Et ce serait assez peu conséquent de sa part, puisqu'il a déjà démontré dans le chapitre 1 la nécessité d'établir ces lois. C'est même quelque chose qui serait un peu bancal. Ce serait tout de même assez curieux qu'il compte sur cette démarche qui est celle des philosophes du droit naturel pour expliquer ce qu'il a déjà expliqué d'une autre manière. Quelque chose qui ne collerait pas. Mais comme on va le voir, s'il reprend ici la démarche de ses prédécesseurs, ce n'est pas pour la valider, mais c'est pour se démarquer de leurs conclusions. Et qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Il veut les contrer. Et il veut les contrer en allant aussi loin qu'il peut, c'est-à-dire en les critiquant au nom de la méthode qu'ils utilisent, méthode dont vous savez qu'elle consiste à partir de la fiction de l'état de nature pour expliquer la nécessité d'établir des lois positives. C'est-à-dire qu'il va reprendre, au fond, il va critiquer en quelque sorte ces philosophes en se situant sur leur terrain. Vous voyez, il va reprendre leur démarche et en reprenant leur démarche, il va montrer que leurs conclusions sont fausses. Vous voyez, c'est ça, la ruse, en quelque sorte, de Montesquieu. C'est-à-dire que sa véritable démarche consiste donc à reprendre celle de ses prédécesseurs pour montrer, en restant sur leur propre terrain, je répète, que leurs conclusions sont erronées. Et il va ainsi montrer, Montesquieu, il va montrer que, par exemple, leur définition d'état de nature est fausse. On va voir pourquoi. Et il va montrer qu'ils ne peuvent pas, bien sûr, à partir de là, en déduire des lois naturelles comme celles qu'ils en déduisent. C'est-à-dire que non seulement ce qu'ils disent de l'état de nature est faux, mais ce qu'ils disent aussi des lois de la nature est faux. Et donc, je résume d'abord, si vous voulez, sa critique, avant de lire plus attentivement le texte. Ce sera plus facile comme ça. Et comme ça, si vous n'avez pas bien compris, vous recomprendrez d'une autre façon la deuxième fois. Concernant la notion d'état de nature, d'abord, qu'est-ce que dit Montesquieu ? Si on veut parler en toute rigueur de l'état de nature, eh bien, il faut le concevoir comme un état où l'homme est réduit à la constitution de son être. Hein, vous voyez, c'est l'expression qu'il emploie au départ. Hein ? Regardez bien la première phrase. « Avant, toutes ces lois sont celles de la nature, ainsi nommées, parce qu'elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. » C'est-à-dire, si vous considérez en toute rigueur les lois de la nature, eh bien, elles, je dirais, elles renvoient à un état de nature où l'homme est réduit à la constitution de son être. Et si l'homme, à l'état de nature, est réduit à la constitution de son être, il ne faut pas lui ajouter d'autre chose. Vous voyez ? Il faut le concevoir, pour le dire d'une autre façon, il faut le concevoir réduit à sa seule biologie. Abstraction faite de ce que l'éducation, de ce que la socialisation ont pu lui ajouter. Vous voyez ? En toute rigueur, à ce moment-là, il faut concevoir l'état de nature comme un état d'isolement. Si vous voulez penser en toute rigueur un homme réduit à la constitution de son être, il faut l'imaginer comme seul, privé de relations d'une certaine façon, réduit à sa biologie. Vous voyez ? Et notez bien, si vous lisez le texte, que Montesquieu s'exprime au conditionnel. Il ne prétend pas qu'il est en train de nous raconter ce qu'il voit. L'état de nature, ce n'est pas un état observable. C'est un état que l'on conçoit comme une hypothèse. Donc, pour ça que tout le texte est écrit au conditionnel. D'ailleurs, comme Hobbes aussi dit la même chose. Hein. L'état de nature, encore une fois, c'est une fiction. Ce n'est pas une réalité qu'on observe. Hein. Donc, c'est pour ça que tout le texte est écrit au conditionnel. Or, est-ce qu'ils sont rigoureux, justement, les philosophes du droit naturel ? Ben, qu'est-ce qu'ils font, les philosophes du droit naturel moderne ? Ils prêtent à l'homme primitif, à l'homme naturel, des idées qui résultent d'un développement des connaissances. Et ce développement des connaissances n'est possible que grâce à une socialisation, que grâce à une éducation, que grâce à une société. Donc, vous voyez, ils ne sont pas rigoureux. Si vous voulez être vraiment rigoureux, allez jusqu'au bout. Envisagez l'homme tel qu'il serait, indépendamment de ce que la société lui a ajouté, lui a apporté. Or, c'est ce qu'ils ne font pas. Ils prêtent à l'homme naturel des caractéristiques de l'homme qui vit en société. Alors, on ne peut... Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez que pour Montesquieu, la conclusion de Hobbes est fausse. On ne peut pas conclure que l'état de nature est un état de guerre, comme Hobbes le prétend, car pour qu'il y ait état de guerre, il faut que les hommes aient acquis l'idée de pouvoir, l'idée de domination. Sans une certaine idée du pouvoir et de la domination, il n'y a pas d'état de guerre. Il faut un certain développement des connaissances pour qu'il puisse y avoir état de guerre. À l'état de nature, l'homme n'est qu'un animal qui cherche à se conserver sans rien d'autre, rien de plus. Or, l'état de nature, donc, je répète, c'est un état où l'homme est un animal qui veille d'abord, essentiellement, à sa conservation et qui a tendance à fuir les autres. Comme il se sent faible, comme il a le sentiment de sa faiblesse, il tend à fuir les autres. Vous voyez, il ne cherche pas à les agresser, à les dominer, au contraire. Hein, ils cherchent d'abord à les fuir. Donc c'est un état paisible. C'est un état paisible. Et Vous ne pouvez pas tirer de l'état de nature, par conséquent, l'explication de l'état civil. Vous ne pourrez pas trouver dans l'état de nature ce qui permet d'expliquer la genèse de l'état civil, puisque, au fond, si l'état de nature est un état paisible, rien ne peut expliquer qu'on doive en sortir. Vous voyez ? D'une certaine façon. Vous voyez ? Bon. Alors, ça, c'est pour le premier point, pour l'état de nature. Deuxième point, les lois naturelles. Si l'état de nature, c'est un état animal, comme je viens de vous l'expliquer, les lois de nature, hein, ce que les philosophes appellent les lois de nature, bah, elles ne peuvent pas être des lois rationnelles. Elles ne peuvent pas être des lois de la raison. Parce que la raison, elle se développe en société. Et parce que la raison, effectivement, alors, de quelque manière qu'on la conçoive, à la façon de Hobbes ou la façon de Locke, pour Hobbes, c'est un instrument de calcul, la raison, hein, qui permet, au fond, de calculer les moyens de sortir d'une situation dangereuse et de veiller à sa conservation. Pour Locke, c'est une raison morale. Bon, mais peu importe ici, à l'état de nature, la raison ne peut pas être développée. L'homme n'est qu'un animal qui veille à sa conservation. Et les lois naturelles, ce ne sont pas des lois de la raison, ce sont des tendances animales. Ce sont simplement des tendances animales. Elles ne prescrivent rien. Elles ne prescrivent rien. Contrairement à ce que disent ici les philosophes du droit naturel. Alors, donc, vous voyez que si maintenant on regarde le texte de plus près, ouais, allons-y, on va regarder le texte de plus près. Et si vous regardez le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il fait, Montesquieu, d'abord ? Il va réfuter la présence en l'homme primitif, en l'homme naturel, l'homme de l'état de nature, il va réfuter la présence en cet homme de l'idée d'un créateur, l'idée d'un dieu. Or, les philosophes, justement, du droit naturel, comme Locke et Pufendorf, considèrent que la première loi naturelle, c'est celle qui porte l'homme vers son créateur. Vous voyez, lisons le texte. Hein. Chapitre 2, deuxième paragraphe. « Cette loi, qui en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous porte vers lui, est la première des lois naturelles par son importance, et non pas dans l'ordre de ses lois. L'homme dans l'état de nature aurait plutôt la faculté de connaître qu'il aurait des connaissances. Il est clair que ses premières idées ne seraient point des idées spéculative. Bon, on va expliquer tout ça. Alors, Montesquieu ne discute pas, ne nie pas l'importance de cette loi, de cette première loi, de ce que les philosophes du droit naturel appellent la première loi naturelle, qui porte l'homme vers son créateur, hein, qui fait qu'il a l'idée de son créateur. Il ne conteste pas cela. Mais ce qu'il veut signifier, c'est que cette première loi, elle est peut-être la première en importance, mais elle n'est pas la première au sens génétique. Ce n'est pas la première qui vient à l'esprit. Ça ne peut pas être le cas. Alors, expliquons d'abord pourquoi, selon les philosophes du droit naturel, cette loi est la plus importante. Pourquoi elle est la plus importante ? J'explique d'abord ce point, si vous voulez. C'est la plus importante parce que c'est la source de toutes les autres. C'est-à-dire que Dieu est à la source des obligations rationnelles que sont les autres lois naturelles. C'est lui qui est le créateur, donc il est à la source des obligations rationnelles que l'homme découvre en lui. Et c'est bien parce qu'il est à la source de ces autres lois naturelles qu'elles ont un caractère obligatoire, qu'elles ont vraiment un caractère obligatoire, vous voyez ? C'est ça qui fait que cette première loi est fondamentale pour les philosophes du droit naturel. Alors, je ne vous cite pas ce que dit Pufendorf. Bon, je l'avais noté, mais on ne va pas le faire. Or, ce que leur rétorque Montesquieu, c'est que l'homme primitif ne peut pas avoir une telle idée. Il est incapable, par conséquent, d'honorer son créateur.
Ce qu'il tendra à nous dire, c'est que si l'homme naturel, par hypothèse, existe, il ne peut pas, il est comme un animal, il ne peut pas prier Dieu, il ne peut pas honorer Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut honorer Dieu que d'une certaine façon, à partir d'un certain développement des idées. Et donc je reprends sa formule. Vous voyez, ligne 13, il est clair que ses premières idées ne seraient point des idées spéculatives. Hein ? Et regardez la phrase suivante, est très intéressante. Il songerait à la conservation de son être avant de chercher l'origine de son être. C'est ce que dira Rousseau critiquant Locke en disant « Locke fait de l'homme naturel un métaphysicien hein, ». C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'homme naturel, un animal, ne peut pas se forger l'idée d'un créateur qui serait à l'origine du monde et de son être. C'est pas possible. Bon. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, de la même manière, on ne peut pas prétendre, comme Hobbes, que les hommes sont naturellement enclins, comme l'écrit ici Montesquieu, ligne 24, hein, ils ne sont pas naturellement enclins à se subjuguer les uns les autres. Se subjuguer les uns les autres, c'est en haut à droite, ligne 24. Hein. Le désir que Hobbes donne d'abord aux hommes de se subjuguer les uns les autres n'est pas raisonnable. Vous voyez ce passage ? Bon. Et pourquoi ? Et pourquoi ils ne peuvent pas se subjuguer les uns les autres ? Ben parce qu'il faudrait pour cela que les hommes, comme le dit Montesquieu, aient l'idée de l'empire et de la domination. Or, l'idée de l'empire et de la domination, hein, c'est ligne 25, est si composée et dépend de tant d'autres idées que ce ne serait pas celle qu'il aurait d'abord. C'est pareil sur un autre plan, bien sûr. Mais l'idée de domination, l'idée de pouvoir, c'est une idée composée. Ce n'est pas une idée primitive. Ce n'est pas une idée première. Vous voyez ? Donc, effectivement, comme l'idée de Dieu, pareil. Mais bon, ce sera un autre plan. Eh bien, l'idée d'empire et de domination ne peut pas venir à l'esprit d'un homme primitif. Et donc, on ne peut pas conclure que l'état de nature est un état de guerre. Et vous voyez d'ailleurs ici qu'il cite un passage de Hobbes qui se trouve dans Le Citoyen, où il cite un extrait hein, du livre de Hobbes. Et au fond, quel est le tort de Hobbes ? Le tort de Hobbes, c'est de croire que ce qui vaut en société, eh bien, ça vaut déjà dans l'état de nature. Alors, l'exemple qu'il donne d'ailleurs et pas valable, vous voyez, parce que Hobbes demande pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armés, et pourquoi ils ont des clés pour fermer leur maison. Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez de chez vous hein, fermez la clé. Ça en dit long sur l'idée que vous faites des autres. Ça, c'est le raisonnement de Hobbes. Et bien, oui, bien sûr, mais ça, on est en société, pas à l'état de nature. Et la confusion est là. Loin d'être animé par un désir de pouvoir et de domination, l'homme naturel, qui n'est soucieux que de sa conservation, eh bien, ne sent d'abord que sa faiblesse. Il ne sent d'abord que sa faiblesse. Ligne 15. Un homme pareil ne sentirait d'abord que sa faiblesse. Sa timidité serait extrême. Et là, vous allez voir que Montesquieu va trouver une confirmation de son hypothèse dans l'observation qu'on a pu faire à son époque dans les forêts allemandes, dans la région d'Hanovre, paraît-il. On a trouvé des hommes sauvages abandonnés dans la forêt, qui étaient craintifs, hein, qui avaient peur, hein, qui faisaient tout pour fuir. Exactement comme ce que dira le docteur Itard quelques dizaines, vingtaines, cent, cinquantaines d'années plus tard, quand il recueillera l'enfant sauvage de l'Aveyron, hein, Victor. Bon, vous voyez que l'histoire de Victor, ce n'est pas la première, hein, il y en a déjà eu quelques-unes avant. Montesquieu ici s'appuie sur cette observation. Elle confirme l'hypothèse. Et qu'est-ce qu'il en dit ? Regardez bien, ligne 19-20, tout les fait trembler, Hein, tout les fait trembler, tout les fait fuir. Tout les fait trembler, tout les fait fuir. Alors, si je fais le bilan, l'état de nature, c'est nécessairement un état de paix. Pourquoi ? Pas parce que l'homme est un être faible et craintif, d'abord. Il se sent inférieur, d'abord. Il tend d'abord à fuir les autres, loin de chercher à les attaquer. L'invain, regardez, l'invain, dans cet état, en haut, à droite, dans cet état, chacun se sent inférieur. À peine chacun se sent-il égal. On ne chercherait donc point à s'attaquer. Et la paix serait la première loi naturelle. L'état de nature, deuxièmement, est un état pré-rationnel. Pré-rationnel. Et là, il y a une phrase très importante que je souligne. Lisez-la avec moi. Elle se trouve ligne 10-12. Regardez, très importante cette phrase. L'homme, dans l'état de nature, aurait plutôt la faculté de connaître qu'il n'aurait des connaissances. Je la reprends. L'homme, dans l'état de nature, aurait plutôt la faculté de connaître qu'il n'aurait des connaissances. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'état de nature, l'état animal, la faculté de connaître, ce qu'on appelle la raison, hein, ce qu'on appelle la raison, la faculté de connaître existe, oui, mais elle n'est qu'une faculté virtuelle. Elle n'est qu'une pure faculté virtuelle. Elle n'existe pas encore vraiment, car elle ne peut vraiment exister qu'en acquérant des connaissances. Grâce au langage, grâce à un processus de socialisation. C'est-à-dire que, bon, bien sûr qu'un bébé qui vient de naître, potentiellement, il a la raison, potentiellement, enfin, il n'a pas effectivement. Là, c'est la même chose. Vous avez, au fond, un être qui a virtuellement la faculté de connaître, mais c'est comme si elle n'existait pas. Bon. Et si vous poursuivez ensuite la lecture de ce fameux chapitre 2, eh bien, vous voyez que l'état de nature, d'abord, est un état d'isolement, ça c'est clair. Il faut le penser ainsi, si on veut le penser de façon rigoureuse. Mais c'est un état qui ne condamne pas l'homme à l'isolement. C'est ça qui est intéressant, et vous allez voir ce qui va se passer. Lisons la fin, donc, du chapitre 2 à partir, si vous voulez, de la ligne 35. Bon, le désir de conservation, certes, dans un premier temps, incite les hommes à se fuir. Bon. Mais, regardez ligne 35, au sentiment de sa faiblesse, attendez, non, c'est pas ligne 35, c'est ligne plus bas, 38, excusez-moi. J'ai dit que la crainte porterait les hommes à se fuir. Bon, c'est, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Hein. Bon. Mais les marques d'une crainte réciproque les engageraient bientôt à s'approcher. Et là, il y a un adverbe très important, c'est le verbe adverbe bientôt, hein, adverbe de temps, bientôt. C'est-à-dire que, oui, au départ, c'est vrai qu'ils se craignent, ils se fuient. Mais il y a un sentiment de réciprocité dans la crainte qui va naître. Et ce sentiment de réciprocité dans la crainte permet de surmonter cette crainte initiale et d'éprouver un certain plaisir à la compagnie des autres. Vous voyez, il y a une sorte d'apprivoisement, en quelque sorte, qui s'effectue, qui fait que la crainte initiale, d'abord, elle est perçue comme réciproque. C'est moi je te fuis, mais je vois aussi que tu me fuis. Donc, vous voyez, il y a une sorte de réciprocité qui s'établit, qui fait que, bon, il y a une sorte d'apprivoisement réciproque qui fait que, bon, un certain plaisir de la compagnie de l'autre va apparaître. Vous voyez, déjà, il y a un premier pas vers la socialisation. Et c'est ce que dit ligne 40, 42, ici, Montesquieu. Hein ? D'ailleurs, ils y seraient portés par le plaisir qu'un animal sent à l'approche d'un animal de son espèce. Mais il y a mieux encore. Le plaisir, ce plaisir, se trouve lui-même augmenté par celui de la rencontre sexuelle qui assure la reproduction. Et là, vous allez voir, c'est un très beau passage. Regardez bien. Ligne 42. De plus, ce charme que les deux sexes inspirent par leurs différences augmenterait ce plaisir et la prière naturelle qu'ils se font toujours l'un à l'autre serait une troisième loi. Alors, vraiment un commentaire important à faire là-dessus. Donc la relation sexuelle est très joliment nommée par Montesquieu la prière naturelle. Mais c'est très intéressant comme expression. C'est très intéressant parce que la prière naturelle, si vous voulez, c'est ce qui est à mi-chemin de l'instinct et du langage. Elle n'est pas encore une parole articulée, voyez, mais elle n'est plus le rut instinctif, si vous voulez. Voyez, elle est à mi-chemin. Il y a ainsi dans l'animalité l'amorce d'un processus de socialisation qui passe par la relation sexuelle. Les partenaires, comme dit Montesquieu, se font l'un à l'autre la prière naturelle. C'est-à-dire que cette prière apparaît comme une forme d'engagement réciproque. Là aussi, vous avez une relation de réciprocité qui exprime un désir de société. Et ce désir de société dépasse l'animalité. Vous voyez, il y a un dépassement de l'animalité qui se fait au fur et à mesure. Et évidemment, ce désir de société ne peut qu'éveiller la faculté de connaître qui n'est d'abord que virtuelle, souvenez-vous, et elle ne peut qu'éveiller cette faculté de connaissance, et elle ne peut que faire parvenir les hommes à, comme le dit Montesquieu, à avoir des connaissances. Et là, lisez avec moi le dernier paragraphe. Regardez, il dit, dernier paragraphe. Outre le sentiment que les hommes ont d'abord, ils parviennent encore à avoir des connaissances. Ainsi, ils ont un second lien que les autres animaux n'ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s'unir, et le désir de vivre en société est une quatrième loi naturelle. Commentaire. C'est-à-dire que le désir d'union sexuelle, c'est déjà un désir de faire société, hein. Et ce désir de faire société, ce désir de vivre en société, qui est d'abord fondé sur ce que Montesquieu appelle le sentiment. Et vous vous souvenez, dans chapitre 1, ce qu'il dit du sentiment. Le sentiment, les hommes l'ont en partage avec les bêtes. Hein ? Les bêtes, elles sont unies par le sentiment. Eh bien, ce désir de vivre en société se raffine, se cultive, se transforme au point de permettre un dépassement de l'animalité grâce à l'acquisition des connaissances, grâce au développement des connaissances. Et vous voyez que les hommes s'humanisent en s'élevant progressivement au-dessus de leur animalité grâce à tout un processus de socialisation au terme duquel ils ont un nouveau motif de s'unir, mais qui n'est plus fondée sur le sentiment, mais qui est fondée sur des connaissances. Vous voyez que les hommes, à la différence, vous savez, les bêtes s'unissent par le sentiment, les hommes sont capables de s'unir par les connaissances. Mais les connaissances, ce n'est pas spontané. Hein ? Donc, vous voyez, il y a d'abord un premier motif de s'unir par le sentiment, comme on a vu, avec Montesquieu, hein, dans ce texte. Et puis, vous avez vu que, progressivement, il était en train de naître un deuxième motif de s'unir par les connaissances. Et alors là, vous êtes dans le stade vraiment de l'humanité qui se différencie de l'animalité. Et vous voyez que, en faisant ainsi de ce désir de vivre en société une quatrième loi naturelle, au fond, en affirmant une sociabilité naturelle de l'homme, Montesquieu rejoint d'une certaine façon le philosophe antique Aristote, qui disait de l'homme qu'il est un animal politique. Alors, sans m'étendre là-dessus, c'est vrai qu'il y a un rapprochement possible. Ce rapprochement est assez juste. Mais il a des limites tout de même. Il a des limites parce que il faut ici préciser que la justification que donne Montesquieu de la sociabilité humaine est très différente de celle d'Aristote. Pour résumer, pour Aristote, la sociabilité de l'homme est fondée sur la parole, sur le logos. Le logos, pour les Grecs, c'est le discours articulé. C'est une pensée rationnelle, si vous voulez. Et grâce à ce discours articulé, les hommes peuvent s'entendre sur le nuisible, sur l'utile et sur le nuisible, et aussi sur le juste et l'injuste, qui se rapportent aux affaires de la cité, qui se rapportent aux affaires de la société. Vous voyez ? Donc, pour Aristote, effectivement, si les hommes sont des animaux sociables, politiques, c'est parce qu'ils possèdent le logos. Ce n'est pas ce que dit Montesquieu, exactement. Montesquieu, oui, d'une certaine façon, dit que l'homme est un être sociable, naturellement, un animal politique, si vous voulez. Mais c'est un animal qui n'est pas immédiatement politique, n'est pas immédiatement sociable au sens où l'entend Aristote. Son désir de société, son désir de vivre en société, se comprend à partir d'un désir de conservation animale qui se transforme, hein, et qui, en parvenant à des connaissances, permet à l'homme de s'unir avec les autres hommes en société. Oui, mais ce n'est pas immédiat. Il y a une genèse, une sorte de processus de socialisation qui mène à ça. Ce n'est pas ce que dit Aristote. Et j'insiste à nouveau, parce que je crois qu'il faut y insister, Montesquieu insiste sur le fait que l'homme est d'abord un animal incapable de raisonner. Enfin, je veux le dire. Et les lois naturelles, je le répète, ce sont des tendances animales, ce ne sont pas des lois rationnelles, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qui fait d'ailleurs, et ça c'est un point très important qui va nous permettre de penser la suite, c'est que la thèse de la sociabilité naturelle, qui est celle de Montesquieu, elle ne permet pas de concevoir, comme le font par exemple certains philosophes du droit naturel, elle ne permet pas de concevoir les lois naturelles comme des normes universelles, prescriptives, auxquelles l'autorité politique souveraine, établie par le contrat social, devrait se conformer pour instituer des lois positives. Je reprends ce que je viens de vous dire. Vous voyez, pour les philosophes du droit naturel moderne, Locke, Pufendorf et quelques autres. Au fond, les lois naturelles, ce sont des prescriptions de la raison que le législateur doit suivre lorsqu'il établit les lois, pour que ces lois soient justes. Vous voyez ? Elles sont des normes universelles que tout législateur doit suivre. Hein ? Sinon, les lois qu'il établit ne sont pas justes. Et d'où ces philosophes sortent-ils l'idée de loi naturelle, d'une sociabilité naturelle des hommes qui existerait à l'état de nature ? Je ne parle pas de Hobbes, là, hein, je parle des autres philosophes. Eh bien, là, ce n'est pas possible pour Montesquieu, puisque la sociabilité naturelle dont il parle, c'est essentiellement une sociabilité animale. Vous voyez ? On ne peut pas fonder sur les lois naturelles, vous voyez, on ne peut pas compter sur elles pour fournir des prescriptions aux législateurs. Et elles ne disent pas les lois naturelles, elles ne disent pas ce que doivent être les lois positives, pour le dire d'une autre façon. Elles expriment seulement un désir de vivre en paix et en société. Et donc, vous voyez que, au bout de cette enquête, Montesquieu écarte les conclusions auxquelles aboutissent les philosophes du droit naturel moderne par l'examen qu'ils font de l'hypothèse de l'état de nature, comme il écarte la thèse de Hobbes, qui voit dans l'état de nature un état de guerre exigeant que seule l'autorité politique décide de ce qui est juste ou injuste. Et aussi longtemps que l'homme se réduit à une vie animale, à un simple désir de conservation, eh bien, il est faible. Il est faible. Et la faiblesse de l'homme à l'état de nature empêche les hommes de se nuire mutuellement et de se combattre. Et nous en arrivons au chapitre 3. Vous allez voir un renversement. Début du chapitre 3. Mais, je dis mais, regardez bien, sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse. L'égalité qui était entre eux cesse, et l'état de guerre commence. Hey, on assiste à un renversement. La vie en société fait perdre aux hommes leur sentiment de faiblesse. Et vous vous souvenez que le sentiment de faiblesse, c'est lui qui est à la source de la première loi naturelle, selon Montesquieu, c'est-à-dire c'est lui qui est à la source de la paix. Eh bien, la vie en société fait perdre aux hommes leur sentiment de faiblesse et donne naissance à un sentiment de force. Renversement. Sentiment de force qui conduit au conflit en vue d'obtenir en sa faveur les principaux avantages de la société, comme va le dire Montesquieu. C'est-à-dire ici, disons la suite, disons le deuxième paragraphe. Chaque société particulière vient à sentir sa force, ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force, ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société, ce qui fait entre eux un état de guerre. Alors, ça c'est très intéressant. Là encore, on peut comparer les philosophes. Vous vous souvenez, pour Hobbes, l'état de nature, c'est un état de guerre. Et il fallait un contrat social pour passer à l'état civil. Bon. Eh bien, Montesquieu, lui, au contraire, considère que l'état de nature, c'est un état de paix. Et que c'est au contraire la vie en société qui est un état de guerre. C'est la vie en société qui entraîne un état de guerre. État de guerre tant qu'elle n'est pas réglée par des lois. Tant qu'elle ne devient pas un état civil. C'est-à-dire que l'état social est un état de guerre tant qu'il ne devient pas un état civil. C'est-à-dire un état réglé par des lois. Vous voyez ? Ainsi, l'état de nature qui est, encore une fois, pour Montesquieu, un état d'isolement initial, où les hommes cherchent à se fuir d'abord. Eh bien, cet état de nature se transforme dès qu'il parvient à la vie sociale en relation conflictuelle permanente. Mais nous ne sommes plus dans l'état de nature à ce moment-là. Hein ? Nous avons quitté l'état de nature par cette transformation. Et il faut ici rappeler, ça c'est intéressant, il faut ici rappeler que c'est le développement des connaissances qui est responsable de cette transformation. Aussi peut-on dire que le développement des connaissances, il a des effets ambivalents. À la fois, il est ce qui engendre l'état de guerre, parce que c'est à partir du moment où il y a développement des connaissances que les hommes se sentent forts. Donc, à la fois, vous voyez, le développement des connaissances engendre l'état de guerre, il engendre le mal. Mais aussi, il est ce qui permet de lui trouver un remède par l'établissement des lois, parce qu'il faut un développement des connaissances pour pouvoir envisager un remède, justement, à l'état de guerre, et concevoir et instituer des lois. Vous voyez, ambivalence. C'est-à-dire que en développant le sentiment de force, le développement des connaissances incite les hommes à se combattre pour obtenir chacun en sa faveur les avantages de la société, mais en même temps, il est ce qui leur permet d'inventer des lois positives, pour y mettre un frein et empêcher donc les destructions mutuelles. Et vous voyez, vous avez ici une ambivalence remarquable hein, dans le texte, qui est soulignée par Montesquieu, c'est-à-dire que le pouvoir de faire des lois s'affirme en même temps que celui de s'écarter des lois. Hein, c'est bien parce que l'homme dispose de ce pouvoir d'infraction qu'il a la liberté d'un être intelligent, qu'il a le pouvoir d'enfreindre les lois et qu'il a corrélativement le pouvoir d'en faire. Vous voyez, ça va ensemble. Ça apparaît en même temps. Donc, vous voyez que la vie sociale, c'est la guerre. Et ici, si vous regardez bien le texte, c'est pas seulement une guerre d'individu à individu, c'est aussi une guerre de peuple à peuple. Hein. Il y a plusieurs types d'états de guerre, si vous voulez. Et comme il y a plusieurs types d'états de guerre, eh bien, il faut appliquer à chacun d'eux une régulation juridique spécifique. Alors, c'est l'objet des paragraphes suivants. On ne va pas les lire dans le détail. Hein. Vous avez trois sortes de droits, trois types de régulation juridique. Vous avez d'abord le droit des gens. Le droit des gens, c'est le droit international. Ce droit international qui traite l'état de guerre entre les nations. Et puis, les deux autres droits, c'est le droit politique et le droit civil. Le droit politique et le droit civil, ils traitent des conflits au sein d'une même nation. Alors, le droit politique se charge de régler la relation entre gouvernants et gouvernés. Ça, c'est le droit politique. Et puis, le droit civil, lui, il va se charger des rapports que les citoyens ont entre eux, du rapport entre les particuliers, si vous voulez, au sein de la nation. Hein, vous avez ces trois droits-là qu'il faut bien distinguer, étant entendu que les deux derniers sont en liaison. Hein. Alors, je terminerai juste là-dessus, et je serai très bref, parce que je ne veux pas... À la limite, je vais entamer la chose, et puis on continuera la prochaine fois sur ce point. Vous noterez que dans ce troisième chapitre, Montesquieu ne développe aucune genèse qui mettrait en évidence le passage à une organisation juridique de la société et qui permettrait de s'interroger sur sa légitimité, sur le fondement de ces différentes sortes de droits. Je veux dire par là qu'il ne fait aucune référence à l'idée d'un contrat social. Il ne fait pas de référence à l'idée d'un contrat social qui, je vous le rappelle, est la fiction à laquelle recourent traditionnellement les philosophes pour expliquer l'organisation juridique de la société et réfléchir sur la légitimité de l'autorité politique. Hein. Bon, vous savez ça maintenant. Et vous voyez, ils partent de l'hypothèse de l'état de nature, ils en déduisent la nécessité d'un contrat social pour sortir de l'état de nature et faire naître l'état civil. Hein. Vous connaissez ça. Bon. Eh bien, ici, Montesquieu, bon, et là, je vais être très bref là-dessus, ne fait pas franchement référence à un contrat social. Il cite un obscur juriste napolitain, Gravina. Bon, on prendra ça. Mais oui, d'une certaine façon, qui présente la formation de la société comme l'union de volontés individuelles. C'est ça, le contrat social. C'est ça. Sauf que, Montesquieu n'en dit pas plus. Il est très, très allusif, extrêmement allusif à ce sujet. Il n'y a aucune référence explicite à l'idée de contrat social. Le mot n'est même pas prononcé. Et surtout, il n'y a rien de précis sur les modalités de cette union des volontés. Or, ce qui est important dans le contrat social, c'est l'acte par lequel chacun renonce volontairement à son droit de se gouverner soi-même en faveur d'une autorité politique. Et ça, il n'évoque même pas ça. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, il éclipse la notion de contrat social. Et ça, c'est très important et très intéressant. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Et c'est là-dessus qu'on commencera la prochaine fois. C'est que il va changer de problématique, vous voyez. La problématique des philosophes du droit naturel moderne, c'est comment fonder, qu'est-ce qui fonde l'autorité politique, qu'est-ce qui fonde l'établissement des lois. Ils cherchent les conditions de la légitimité de l'autorité politique et des lois qu'elle institue. Et ils cherchent des normes universelles qui puissent en quelque sorte fonder cette légitimité. Et ils considèrent comme négligeable la question des différentes formes de gouvernement. Ils ne s'intéressent pas à cette question. Est-ce que c'est une république, une monarchie ? Peu importe. La question principale, c'est qu'est-ce qui fonde l'autorité politique ? Eh bien, Montesquieu va inverser l'ordre des priorités. D'abord, il va montrer qu'il n'y a pas de règles a priori universelles qui puissent fonder la légitimité du pouvoir. Bon, on reviendra sur ce point. Et d'autre part, il va montrer que ce qui est le plus important, c'est de réfléchir disons, en différentes formes de gouvernement, et il va montrer que cette réflexion ne peut pas faire abstraction des situations particulières des peuples. C'est-à-dire, au fond, on ne peut pas répondre à la question du pouvoir politique en faisant abstraction des circonstances particulières dans lesquelles les peuples seront placés. Et donc, la question pour lui, c'est de savoir quel est le type de gouvernement qui convient à tel type de peuple. Voyez ? Et la question de la justice, il va la poser d'une autre façon, d'une autre manière. On a déjà un petit peu touché la question. On reviendra là-dessus. Et quand on aura bien vu cela, eh bien, à ce moment-là, oui. Alors, là, évidemment, il faut bien lire le chapitre 3. Bon, on peut laisser le passage intermédiaire, mais surtout la fin, qui présente le plan d'esprit des lois. Quand on aura aussi compris, bien sûr, encore une fois, ce que Montesquieu appelle l'esprit des lois, on en a déjà dit quelque chose, mais là, on reviendra là-dessus. À ce moment-là, on pourra vraiment entrer dans la réflexion politique qui est la sienne sur les différentes formes de gouvernement. Et là, vous trouverez le Montesquieu que les uns et les autres connaissent un peu, la République, la monarchie, etc. Le despotisme, la question sur le despotisme est fondamentale. Mais j'en resterai là pour ce soir. Merci. Et je fais vos questions. Alors. Bonne question.
On est passé sans insister sur la famille.
Alors, elle est évoquée, hein, dans le chapitre 3. Elle est évoquée pour contester l'idée d'un pouvoir paternel. L'identification d'un pouvoir, de l'autorité politique à un pouvoir paternel. Parce que ça, c'était la thèse d'un certain nombre de penseurs absolutistes, pas Hobbes, hein, mais d'autres penseurs absolutistes qui considéraient au fond que le roi, le monarque, c'est comme un père finalement. Il tient son autorité de son ascendance. Hein, il règne au fond comme un chef de famille. Or, ce que dit Montesquieu, c'est qu'à partir du moment où dans une famille il y a plusieurs enfants qui vont faire plusieurs enfants, il y aura plusieurs familles, etc., il y a une pluralité telle qu'on ne peut plus considérer le descendant du chef de famille comme le père de tous les autres. C'est pas possible. On ne peut pas identifier l'autorité politique à une autorité naturelle, celle d'un chef de famille. Alors la famille, effectivement, Montesquieu ne développe pas trop son existence. C'est vrai qu'elle a une origine naturelle, si on peut dire, mais on ne peut pas fonder sur elle. On ne peut pas fonder sur elle, sur son existence, l'autorité politique. L'autorité politique est d'une toute autre nature. Enfin, c'est ce que disent en tout cas les penseurs du contrat social. Eux, effectivement, ils écartent cette idée-là. C'est que la famille, effectivement, crée un lien. Mais le lien politique est d'une autre nature que le lien naturel familial. C'est impossible hein, de considérer que le lien politique qui nous relie les uns et les autres nous relie comme les uns et les autres comme si nous étions tous les frères, des frères qui se rattachent à une même origine commune, à un même père. Hein, c'est pas possible.
La famille amène la paix, non ?
Oh, Et les frères qui s'entretuent, Caïn et Abel, hein ? Oh, Caïn et Abel tout de même, hein ? Bon. Hein ? Ça, pas toujours. Donc, voilà, ça, je crois que vous avez répondu là-dessus. Allez-y, allez-y.
C'est pas vraiment une question, c'est un avis. D'après moi, l'esprit de la famille vient beaucoup plus tard, instillé par l'histoire des religions. Et d'ailleurs, je crois que c'est de l'ordre du fantasme, mais c'est en tout cas très joli quand il parle de prière naturelle.
Oui, la prière naturelle, c'est pas la famille.
Hein. Justement, en ça, je le justifie en le fait que j'imagine qu'un peu plus tard, dès lors qu'il ou elle rencontrera un autre membre du sexe opposé, c'est ça.
Alors, je vais vous dire une chose. Et pour qu'il y ait une famille, il faut tout de même qu'il y ait une stabilité dans la relation, qui n'est pas d'ordre naturel tout de même.
Voilà, c'est justement ce que je dis. Là, on a parlé de la famille, mais d'après moi, il ne s'agit pas de famille ici. Est-ce que ça parle de fidélité
sans... Ah non. Non, là on est dans la relation primitive. Bon, on se rencontre dans la nature. Non, pour qu'il y ait, et c'est vrai que, parce que, vous voyez, ce que vous disiez, c'est qu'il y aurait d'abord la famille, puis ensuite, il y aurait la société par une sorte d'élargissement. Et les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. Pour qu'il y ait famille, constitution de famille, il faut peut-être que la société existe. Plutôt. Ça existe plutôt dans notre ordre. Et pour que, est-ce que la famille est fondée exclusivement sur une union naturelle? Rencontre sexuelle, oui, elle a pour origine, mais elle n'existe en tant que famille qu'à partir du moment où il y a des relations distribuées entre les membres de la famille, un père, une mère, des enfants, des frères. Bon, la psychanalyse le dit suffisamment, c'est que ce n'est pas un ordre purement naturel, c'est un ordre culturel. Il faut qu'il y ait une loi qui distribue des roses.
Il faut que le père reconnaisse, en fait.
Il faut que et qu'il soit... Chacun ait sa place.
Il se fait valider par l'ensemble de la...
C'est ça. Il y a une structuration. Il y a un processus culturel. Tout à fait. Il faut que la prohibition de l'inceste... Je vais m'éloigner de Montesquieu et de Rousseau. Hein, enfin, de Rousseau. Je parle de Rousseau. Et de ce que nous disions. Là. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait famille, il faut qu'il y ait distinction des générations. Dans l'état de nature, il n'y a pas de distinction de génération. L'inceste n'est pas interdit.
C'est discuté.
Non, mais dans l'état de nature, tel qu'il est pensé dans l'hypothèse, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, comme il n'y a pas de rôle institué, je veux dire que toutes les relations sont possibles, hein, si vous voulez. C'est à partir du moment où il y a une nomination et du langage qu'effectivement, il y a des rôles. Et à ce moment-là, il y a une stabilisation. Et qu'à ce moment-là, il y a un interdit qui... L'interdit de l'inceste, c'est un interdit qui sépare les générations, qui institue des générations différentes. La négation de l'interdit de l'inceste, c'est la confusion des générations, telle qu'elle existe, par hypothèse, dans l'état de nature. Bon, mais là, Montesquieu ne va pas sur ce terrain, hein, n'évoque pas cet aspect, oui. Ah, c'est pas évoqué, mais les animaux, à ma connaissance, ne connaissent pas l'interdit de l'inceste. Hein.
Oui, c'est très discuté. Quoi. Est-ce que je peux poser une question? J'étais étonnée qu'on parle de faculté de connaître et de raison. Et pourquoi on ne parlerait pas plutôt de l'homo sapiens sapiens, soit de
Oui, attendez. Là, si vous voulez, n'attribuons pas à Montesquieu une réflexion qui est celle de la paléontologie, qui est beaucoup plus tardive, hein, si vous voulez. Il ne fait pas une recherche sur les origines des espèces, etc. Hein. Donc là, il est dans une réflexion qui consiste tout simplement à imaginer une situation, on appelle l'état de nature, qui serait censé précéder l'établissement des sociétés civiles. Bon, c'est tout, hein, pas plus. Hein. Non, mais il faut pas, si vous voulez, pas s'éloigner de son objet, parce que ça c'est une autre question, c'est un autre questionnement qui n'est pas le sien, si vous voulez, d'une certaine manière.
Vous connaissez pas Lucie à cette
époque-là ? Non. Ceci étant dit, il y a au XVIIIe siècle déjà l'amorce d'une réflexion sur les origines de l'homme, etc. Il y a Buffon, il y a des gens comme ça. Bon, mais c'est vrai qu'on est encore on est encore dans l'idée d'une... Ah, ça commence à faire débat. Est-ce qu'il y a un homme et une femme au départ, et puis est-ce qu'il y a une unicité de l'espèce humaine dès le début, est-ce qu'il y a plusieurs espèces? Enfin, oui, c'est des questions qui commencent à s'agiter, hein, chez les penseurs à l'époque. Hein. Il y a déjà pas mal de choses. Hein. Mais enfin, Montesquieu, c'est un des premiers. Il est avant les autres, hein. Il est avant les autres. Hein. C'est le premier grand penseur des Lumières. Et c'est même, enfin, là je dirais qu'il est injustement méconnu. Parce que moi je pense que si vous, peut-être certains d'entre vous connaissent Rousseau.
Oui, ben effectivement,
ça, Rousseau, c'est, il reconnaît sa dette, d'ailleurs, largement inspiré. Il a puisé largement son inspiration. Je ne dis pas qu'il a fait du Montesquieu, ce serait un peu injuste. Mais vraiment, cette réflexion sur l'état de nature, où il ne faut pas projeter sur l'état de nature ce qui vient de la société, bon, Rousseau, effectivement, va le reprendre, cette, hein, va le dire. Donc, voilà, si vous voulez, c'est... Mais Montesquieu est très elliptique, il ne développe pas trop là-dessus. Il va très vite, ce n'est pas son problème. Il veut aller tout de suite à l'examen des lois positives, vous voyez. C'est ça qui l'intéresse. Hein. Donc il faut déblayer le terrain, il faut préparer les choses, il faut écarter toutes ces théories qui consistent au fond à chercher un fondement d'autorité politique en se référant à des lois de nature, etc. Ça, il faut dégager le terrain. Hein, vous voyez ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes? Je distribue la parole un petit peu. Oui.
Je suis peut-être très orgueilleuse, mais est-ce qu'on peut quand même mettre dans le même temps la faculté de connaissance, la raison et la conscience, ce qui nous distingue des animaux? Peut-être.
Alors, la conscience n'est pas évoquée. Non, la conscience n'est pas évoquée, mais c'est vrai que dès lors qu'il y a faculté de raisonner, l'homme est à la capacité de réfléchir sur lui. Par exemple, pour se connaître soi-même comme nature humaine, oui, il faut une capacité de réflexion. Mais qui n'est pas... Alors là, ce n'est pas développé dans le texte, hein, ce n'est pas non plus développé. Il ne faut pas chercher à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Mais c'est vrai que on peut très bien, enfin, on voit bien que d'une certaine façon, l'état animal initial, c'est un état où effectivement l'homme vit comme l'animal dans une sorte d'immédiateté. Hein, il n'y a pas de recul sur soi. Il est uniquement animé par le désir de conservation. Hein. Et pour qu'il y ait effectivement réflexion, bah, il faut qu'il ne soit plus simplement dans cette vie immédiate. Hein. Bon, mais ce n'est pas là non plus, si vous voulez, le propos de Montesquieu n'est pas de s'interroger spécialement sur ce sujet. Il l'évoque, hein, mais il ne s'intéresse pas à la genèse, au fond, de l'humanité, si vous voulez, à la constitution des facultés de l'homme. C'est pas quelque chose, même si c'est présent, vous voyez, c'est pas son objet principal.
Hein.
Oui. 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 Mais là, c'est parce que là, c'est l'intelligence qui fait que c'est surtout le rapport à la transcendance divine, à la justice qui lui vient de Dieu. Hein, c'est ça surtout qui veut souligner. Mais bon, là aussi, c'est rapide. Hein. Toujours rapide là-dessus. Question encore. Oui, allez-y.
C'est peut-être bête comme question, mais...
Non, il n'y a pas de question bête.
Je me demandais, dans l'état de nature que Montesquieu conçoit, donc l'état de nature dans lequel l'homme n'a pas encore de la raison, est-ce qu'il y a déjà le langage? Parce que justement, chez Aristote, le langage...
Oui, vous avez une bonne question, ce n'est pas une question bête. C'est une question importante. C'est vrai que la question n'est pas évoquée, mais on peut imaginer, on peut supposer qu'à l'état de nature, il ne peut pas y avoir de langage. Puisque d'une certaine façon, encore une fois, c'est une hypothèse. Hein. Il présente ça comme une hypothèse. Et il présente ça comme une hypothèse pour, en quelque sorte, couper l'herbe sous le pied à ceux qui, sans cesse, font référence à cette notion. Quand il parle de l'état de nature, il parle de l'état de nature comme si l'homme était déjà sociable, comme si déjà il était en relation avec les autres. Alors, soit c'est une relation infernale.
Si
ça,
il y a un langage, il y a forcément la société.
Et donc, voilà, à partir du moment... Donc là, effectivement, c'est que si pour qu'il y ait langage et acquisition d'une langue, il faut qu'il y ait société, il faut qu'il y ait rapport, un rapport constant avec les autres. Si c'est des rencontres épisodiques, c'est pas une relation. Pour qu'il y ait langage, acquisition d'une langue, il faut une constance des relations. Donc, une société. Et là, effectivement, c'est pas abordé. C'est vrai, votre question est tout à fait légitime, bien sûr. Il ne peut pas y avoir de... À l'état de nature, si on vraiment on réfléchit à l'hypothèse telle que la présente Montesquieu, c'est un état d'isolement, comment pourrait-il y avoir acquisition d'une langue et comment pourrait-il y avoir développement des connaissances? Non.
Non, mais on part sur une idée de fiction. Donc c'est vrai qu'il a, d'une certaine façon, il a raison d'abandonner, en fait,
oui.
De régler le problème, parce que oui. On continue d'imaginer.
Alors,
l'hypothèse, on peut prendre, soit l'homme, comme Hobbes, en fait, il a envie de se battre, on peut prendre cette hypothèse-là, soit au contraire, il fuit. Soit il fait tout ça, mais ce sont des hypothèses. Il n'y a rien de...
Oui, mais ce n'est pas des hypothèses purement gratuites non plus, parce que
non,
c'est vrai.
À chaque fois,
c'est en fait ce qui fait que Hobbes. Oui, mais ce qui fait que Hobbes est amené à envisager l'hypothèse d'un état de guerre, un état de nature comme état de guerre, c'est l'expérience, lui, qu'il a de la guerre civile. Il est en Angleterre, à une époque où la guerre civile fait des ravages. Et au fond, si on veut penser une sorte d'illustration de ce que Hobbes entend par l'état de guerre, l'état de nature comme état de guerre, imaginons ce que devient la société quand il n'y a plus de loi, qu'il n'y a plus rien. Les gens se tirent dessus, à tout moment on peut se prendre une balle dans la tête. On est exposé à tout. Hein, c'est ça, là, c'est l'expérience terrifiante de la guerre
c'est
civile.
Vrai que sa conception, effectivement, est liée en fait à ce qui lui a ses références.
D'une certaine manière, c'est ça. Et c'est ce que. Voilà. C'est ce que Rousseau, à la suite de Montesquieu, reprochera aussi à ses philosophes, c'est qu'ils projettent dans l'état de nature, au fond, ce qu'ils conçoivent de l'état civil. Et donc, c'est pas une véritable... si on est rigoureux, si on veut vraiment penser l'état de nature, il faut le penser comme un état, effectivement, où l'homme est seul, radicalement seul, c'est ce que fait déjà Montesquieu, c'est ce que fait ensuite Rousseau, c'est-à-dire comme un animal qui ne développe pas ses capacités humaines, qui n'a pas l'occasion de les développer. Mais lui, Montesquieu, il ne va pas sur ce chemin-là, parce que pour lui, il faut considérer la société. Les hommes ont toujours vécu en société. La société est un point de départ. Voilà. Les sociétés, de fait, existent. Voilà. Et donc, la question de l'origine de la société est une question... il ne veut pas dire stupide, mais d'une question qui ne se pose pas. Il faut partir de l'état de fait, il faut partir des faits. Voilà. Montesquieu, il parle toujours des faits.
À ce moment-là, il faut s'accrocher sur une anthropologie, il faut des sciences qui n'existaient pas à l'époque pour pouvoir remonter, avoir une preuve de ce que du développement de l'intelligence. Dans la réalité, ouais. À partir d'éléments. Ouais.
Alors, ceci dit, l'état de nature, comme fiction, peut servir, ça peut être stimulant sur le plan épistémologique, intellectuel, c'est-à-dire au sens où ça nous amène à réfléchir sur la façon dont se constitue l'être humain. Et c'est vrai que ça ouvre un champ de recherche, on peut dire. Comment se constitue l'intelligence? Et d'ailleurs... Le fameux Hector Itard, qui recueille l'enfant sauvage, l'Aveyron, là. C'est ça qui l'intéresse. Il est un lecteur des philosophes, il a lu Condillac, tous ces gens-là, et il veut apprendre à Victor le langage. Alors, il va échouer parce qu'il a une mauvaise méthode, mais les leçons de cet échec sont intéressantes. Et donc, il y a toute une réflexion au XVIIIe siècle sur la généalogie, au fond, du langage, sur la construction d'être humain, etc. Mais c'est vrai que la question de l'origine des langues, la question de l'origine de l'homme en termes à partir d'état nature, c'est une question... on tourne en rond. Alors, on peut pas... La question de l'origine des langues, il faudrait présupposer que les hommes se sont entendus pour dire « Ah, tiens, on va se réunir et on va inventer une langue. » Mais pour pouvoir inventer une langue, il faudrait déjà qu'ils soient capables de parler. Ben, bref, vous voyez, vous êtes dans un cercle infernal. Donc comment les langues sont-elles nées? Ça, c'est une question passionnante. Ben, c'est une question qui va intéresser beaucoup les philosophes du XVIIIe siècle. C'est vraiment une question clé. Oui.
Dans l'état de nature, les mères, par exemple, avec leur enfant,
Est-ce qu'elle communique et comment ?
Alors, là, je vais vous dire. Et là, je vais laisser Montesquieu, là. Là, je vais essayer de vous répondre à la façon de Rousseau. Rousseau, dans l'état de nature, qui considère, au fond, que si on prend rigoureusement l'hypothèse de l'état de nature, il n'y a pas de relation avec les autres, si ce n'est que des relations épisodiques. Alors, il y a une relation de la mère avec l'enfant, le temps de l'allaitement, mais après, ça cesse très vite. Alors, vous voyez, c'est... Et il n'y a pas de père. Une relation mère-enfant, oui, il n'y a pas de père.
Hein ?
Et voilà. Oui.
Mais théoriquement, l'enfant pourrait parler à tout le monde.
Alors, là, je suis entends, tout à fait d'accord avec vous. Mais là, vous êtes. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais il y a deux choses. C'est que dans l'hypothèse de l'état de nature, vous n'êtes pas en société. Là, on est toujours. Le problème de nos exemples, c'est que nous sommes une situation d'emblée sociale. Même le petit. Le petit, déjà, même dans le ventre de sa mère, il est déjà dans une relation sociale, on peut dire. Parce que sa mère est en interaction avec une société, avec d'autres personnes, etc. Donc, déjà, qu'est-ce que serait un état de nature radical ? On peut même pas, on peut l'envisager intellectuellement, on peut pas expérimentalement le rencontrer. Bon, déjà, deuxième chose, vous avez raison, c'est vrai que les linguistes montrent bien que l'enfant. Et pour pouvoir parler, il faut d'abord qu'il entende. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que le problème des sourds-muets, hein, se pose.
Oui.
Effectivement.
C'est pour ça qu'un aveugle de naissance, oui. Même si par miracle on leur donnait la vue, ils ne verraient pas. Parce qu'en fait, la vision se fait dans le cerveau.
Oui, oui. Il y a déjà l'activité déjà là. Tout à fait. Et les structures de la langue sont déjà en place quasiment, par l'écoute, hein, par la relation. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une relation. Et tout est là. S'il n'y a pas de relation, il n'y a rien. Et justement, le problème de l'enfant sauvage, c'est que, n'étant pas en relation, il ne peut pas développer ses capacités.
Mais la naissance d'une société peut venir à la fois de l'apparition du langage et du langage en lui-même. C'est le langage qui peut faire société, mais il peut y avoir de société que s'il y a langage.
Oui.
En fait, il y a deux choses.
Oui. Oui. Alors, si vous voulez... Là, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que là, on s'éloigne de Montesquieu. Parce que c'est vrai que ce n'est pas son problème numéro un, hein, si vous voulez. C'est vrai. Non, mais en même temps, je pense qu'il n'est pas sans ignorer ces questions-là. Mais là, il ne les évoque pas. Hein. L'esprit des lois, c'est une réflexion essentiellement d'ordre politique, si on peut dire. Mais qui ne sépare pas le politique du reste. C'est-à-dire que, par exemple... J'insiste sur ce point. Là, je m'éloigne, hein, de ce que vous disiez. Quand on entend parler l'esprit des lois, on croit que Montesquieu, c'est un juriste. Qu'il s'intéresse seulement sur le droit. Or, là, je pense qu'il est important de le dire. J'ai déjà dit, hein, que la réflexion de Montesquieu sur le droit ne prend pas le droit de façon autonome. Le droit est toujours en rapport... avec des mœurs, avec une religion, avec un peuple particulier, etc. On ne peut pas faire une science du droit autonome. On ne peut pas parler du droit comme si le droit était, au fond, une discipline formelle, séparable de sa relation avec les autres facteurs de la société. Ça, c'est vraiment ça qui est important. Donc là, il y a quelque chose de... Ça y est... Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire une sorte de juriste pur.
C'est lié au macrocosme, vous disiez au début, je crois.
Comment ?
C'est lié au macrocosme, en tout cas à l'esprit divin.
Non.
Il y a une cohérence
déiste, en tout cas. Ah non, il laisse Dieu. Hein. Il laisse Dieu de côté. Là. Non, il s'intéresse beaucoup plus, si vous voulez. Là-dessus, il a une approche, à la limite, très moderne. Hein. C'est, voilà, c'est les premiers à réfléchir au rapport entre les lois et puis le type de société, le type, je sais pas moi, d'économie. Vous voyez, c'est ça qui l'intéresse. Hein. Il est... Alors, j'aime pas, ce ne serait pas juste, mais enfin, pour simplifier les choses, il est déjà un peu sociologue, si vous voulez. Sociologue. Mais c'est une approche, enfin, dire ça, c'est réducteur. Hein, voilà. Je crois qu'il faut que. Alors, là, je suis obligé parce que je vais, dans la mesure où le personnel n'est pas là. Je suis obligé de vous ouvrir en bas. Et après, je